Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Et bonjour
pour
Guillaume.
Commencer, on va à Singapour.
Oui, avait-il répété pour l'occasion, seule certitude, la synchronisation était impeccable. Il faut dire que l'image était tellement attendue, la rencontre ne pouvait être que parfaitement chorégraphiée, un mélange de mise en scène hollywoodienne et de parade militaire millimétrée. Après avoir traversé chacun de leur côté un long dédale de colonnes d'un bâtiment colonial désert, le pas lent et le buste bien droit, ils ont suivi le tapis rouge qui les a menés tout droit l'un vers l'autre. Face à face, ne restait plus alors au photographe qu'à appuyer sur le bouton pour immortaliser une poignée de main aussi improbable qu'historique. Kim Jong-un aurait alors lui-même déclaré à Donald Trump « Beaucoup penseront que c'est de la science-fiction ». Nous allons avoir une relation formidable, a lancé pour sa part le président américain, se disant convaincu que la rencontre serait un immense succès. Les deux hommes se sont ensuite entretenus en tête-à-tête pendant un peu plus de 45 minutes avant une discussion bilatérale et un déjeuner mêlant mets occidentaux et asiatiques, cocktail de crevettes, porc croustillant, sauce aigre douce et tarte tropézienne, une des rares informations distillées par la presse. Quand The Times titre ce matin un sommet historique, The New York Times s'empresse, lui, de rappeler que cette rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un ne suit aucune règle de jeu établie. Et pour cause, qu'est-ce que le sénile d'un côté et l'homme roquette de l'autre ont en commun, interroge à sa une le quotidien lisboète Diario de Noticias, ne faisant ainsi que reprendre chacun des doux mots que les deux dirigeants avaient encore il y a peu l'habitude d'employer pour s'apostropher. Son confrère de Vienne, dit Presseux, a bien une idée de la réponse. Les deux hommes sont aussi imprévisibles l'un que l'autre. Le style erratique du président américain est d'ailleurs sans doute l'une des raisons pour lesquelles la rencontre a pu se tenir. Pour le reste, précise sa consœur du Washington Post, Trump ne s'est pas davantage préparé pour ce sommet qu'on le ferait pour une présentation PowerPoint sur le cycle de l'eau. Après tout, pourquoi rompre avec l'habitude de toute une vie ? Et de fait, rien n'est comparable à la confiance illimitée et inébranlable de quelqu'un qui en sait si peu sur un sujet qu'il ne peut même pas tricher sur le fait que ce qu'il dit est faux. Quant à son homologue nord-coréen, reprend dit Presseux, ce sommet est pour lui un terrain de jeu idéal, d'une part parce qu'il n'a pas à craindre d'être mis en pièce par les médias de son pays, tous sous le contrôle du parti, et ensuite parce qu'en tant que guide suprême, il exerce sa fonction à vie pour le meilleur comme pour le pire. En fin de compte, résume pour sa part le journal de Singapour, Straits Times, si l'issue de ce sommet reste encore incertaine, notamment en raison de la personnalité irrationnelle de chacun des deux protagonistes, c'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons justement espérer être agréablement surpris. Chacun des deux dirigeants aime la confrontation tout autant que la lumière, et c'est parce qu'ils se ressemblent que ces deux-là pourraient bien aussi finir par s'entendre.
Autre titre à la une de l'actualité, Thomas, ce matin, après un échange tendu entre l'Italie et Malte qui se sont renvoyés la responsabilité humanitaire de l'Aquarius sur lequel se trouvent 629 migrants, c'est l'Espagne qui a finalement accepté d'ouvrir ses ports aux navires.
Oui, le tout nouveau président du gouvernement, Pedro Sanchez, a donné des instructions hier pour que son pays honore les engagements internationaux en matière de crise humanitaire. Il n'en reste pas moins que les commentaires à la une de la presse italienne sont encore partagés quand la stampa s'indigne. Salvini refoule le bateau des désespérés. À l'inverse, son confrère de droite, Il Giornale, salue la décision du président du Conseil. Heureusement que le gouvernement agit, renchérit libéraux. Bravo Salvini, complète à son tour Il Tempo. Selon Il Post, cette levée de bouclier contre l'immigration est une façon pour le nouveau gouvernement populiste d'instituer un nouvel ennemi auquel s'en prendre, maintenant qu'il ne peut plus s'en prendre au gouvernement, puisque désormais c'est eux la majorité, eux qui gouvernent. Quant à la Stampa, elle estime que la décision brutale de fermer les ports, annoncée de façon fracassante, vise surtout à faire du bruit et à déclencher un scandale international. Mais avant de critiquer cette décision, il faudrait savoir une bonne fois pour toutes si le principe de solidarité prévaut encore dans l'Union européenne, fait remarquer pour sa part Il Corriere. Il y a très peu de solidarité entre les États membres. Comment oublier la fermeture des ports français et espagnols l'été dernier avec la caution tacite des institutions européennes? La coupe aujourd'hui est pleine et les propos de circonstances comme la rhétorique européiste ne sont plus d'aucun secours. Et le journal d'en conclure, si la solidarité en matière d'immigration ne devient pas un projet d'action concret de l'UE, alors le projet d'intégration européen sera voué à un inexorable déclin. Et puis s'agissant toujours d'immigration, deux autres sujets suscitent toujours la polémique. Tout d'abord, la décision du Danemark d'envisager d'héberger ses reboutés du droit d'asile dans des lieux peu attrayants, situés hors du territoire national. Si certains commentateurs approuvent l'initiative, d'autres font là encore le constat amer de l'orientation claire prise par la politique migratoire européenne. C'est le cas en particulier de Die Welt, le journal qui rappelle que la politique des Danois est très proche en réalité de celle des Polonais et des Hongrois, mais aussi des Autrichiens ou des Français. Enfin, aux États-Unis, cette fois-ci, précise Business Insider, le ministre de la Justice vient d'annoncer un durcissement massif des procédures de demande d'asile afin de limiter le flux d'immigrants originaires d'Amérique centrale, en particulier les allégations de violences conjugales ou de violences de la part de gangs criminels ne seront plus suffisantes pour déposer une requête au poste frontière.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.